France Culture.
Le journal est signé Nicolas Balu. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. L'Europe doit renforcer sa défense et les États-Unis se concentrer sur d'autres régions du monde. À Munich, devant les Européens, le vice-président américain J.D. Vance tense l'Union. Le bras droit de Donald Trump a surpris son auditoire en minimisant le risque d'ingérence politique de la Russie en Europe. Nous rejoindrons Éric Bigala sur place. Aux États-Unis, New York se voulait une ville sanctuaire pour les migrants. Le maire de la ville finit par collaborer avec Donald Trump pour éviter les enquêtes pour corruption, précision de Loïc Loury. En République démocratique du Congo, le M23 et son allié rwandais ne cessent de gagner du terrain face à l'armée. C'est désormais un aéroport stratégique qui a été conquis. Les explications d'Omar Waman, notre envoyé spécial sur place. François Bayrou rencontrera demain le porte-parole des victimes du collège-lycée de Bétaram. Le Premier ministre, qui continue d'assurer qu'il n'était pas au courant de la teneur des violences qui s'y déroulaient. Dans ce journal, nous nous interrogerons sur le rôle de l'Église. Et puis, MeToo chez Air France, de nombreux salariés dénoncent la banalisation des violences sexistes. Ce sera le dossier de notre journal. Il y a un nouveau shérif en ville, une déclaration de cow-boy signée J.D. Vance, le vice-président américain. Il est à la conférence sur la sécurité en Europe, à Munich. Le sujet majeur abordé est bien sûr la guerre en Ukraine, avec la perspective de discussion de paix. Mais avec qui? Rien ne se fera sans les Européens et l'Ukraine, s'inquiète l'Union, inquiète du coup de fil, notamment entre Donald Trump et Vladimir Poutine. L'Union, dans un premier temps rassurée par les déclarations américaines du jour, c'était sans compter sur la façon dont l'équipe de Donald Trump compte gérer d'éventuels pourparlers. Bonsoir Éric Bigala.
Bonsoir Nicolas.
Vous êtes notre envoyé spécial à Munich. Cet après-midi, J.D. Vance a vertement critiqué les Européens.
Oui, c'est un discours du vice-président américain, pour le coup assez étonnant, et qui parfois arrachait même quelques sourires à l'assistance. Un discours où le vice-président américain s'adressait aux Européens pour leur reprocher tout simplement leur politique libérale. Leur reprocher par exemple d'avoir annulé le premier tour des élections présidentielles en Roumanie. Un populiste inconnu était arrivé en tête grâce à une opération russe de manipulation des réseaux sociaux. En résumé, J.D. Vance est venu à Munich pour dire aux Européens qu'ils étaient en train de devenir des ennemis de la démocratie et de la liberté de parole en refusant de travailler ou de s'allier avec les mouvements et les partis populistes ou en restreignant la liberté de parole sur les réseaux sociaux. Et selon J.D. Vance, le problème numéro un en Europe comme aux États-Unis reste l'émigration de masse. Et le vice-président américain de prendre en exemple les conséquences de telle migration, citant l'attentat à la voiture bélier qui a fait une vingtaine de blessés graves hier à Munich. Un Afghan en situation de demandeur d'asile a lancé sa voiture sur la foule avec des motivations manifestement terroristes. L'homme était radicalisé, affirme aujourd'hui la police allemande. Ce faisant, bien sûr, J.D. Vance s'immisce dans la campagne électorale allemande. Le scrutin des élections fédérales est prévu pour le 23 février prochain. Une campagne durant laquelle la question migratoire est des plus prégnantes, et sur ce chapitre, les populistes d'extrême droite d'Alternative für Deutschland, l'AFD, font la course en tête dans les sondages d'opinion. J.D. Vance s'est gardé d'appeler directement les Allemands à voter pour l'AFD, mais l'essentiel de son discours d'aujourd'hui se ramenait principalement à ça.
Merci Éric Bigala, en direct de Munich avec Johanna Gabrik à la technique. On apprend à l'instant que le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'entretient avec le vice-président américain au cours d'une rencontre donc en marge de cette conférence de sécurité de Munich. L'immigration, obsession de l'équipe Trump, vous l'avez compris, et tous les leviers sont bons pour pratiquer la politique d'expulsion massive promise par le président américain. Ainsi, le maire de New York, une ville pourtant dite sanctuaire, assure être prêt à collaborer avec Donald Trump en la matière. Ce revirement d'Eric Adams n'est pas anodin. L'administration Trump, en effet, a demandé lundi aux procureurs locaux d'abandonner des poursuites contre lui pour corruption. Une affaire qui a provoqué immédiatement un mouvement de résistance à New York, Loïc Loury.
La chaîne CNN évoquait hier un massacre après la démission d'une poignée de hauts fonctionnaires du ministère de la Justice et surtout d'une procureure fédérale de Manhattan en poste depuis moins d'un mois. L'administration Trump lui demandait d'abandonner les charges contre Eric Adams, niet, a répondu Daniel Sassoon, préférant quitter son poste plutôt que de satisfaire la volonté du palais. Dans une lettre, la magistrate explique que rien ne justifie d'arrêter les poursuites accablante contre le maire de New York et met en garde contre l'instrumentalisation de la justice. Un comble pour Donald Trump et une rebuffade d'autant plus marquante que la procureure a été nommée par le nouveau président, elle était en principe fidèle à sa ligne, et que son CV est impeccablement conservateur, le signe que la mise au pas des institutions, en particulier de la justice, voulue par Donald Trump, ne se fera pas sans accroc. Quant à Eric Adams, il réfléchit à un nouveau mandat à la mairie de New York, mais cette fois sous l'étiquette républicaine.
À Gaza, le cessez-le-feu fragilisé ces derniers jours continue de tenir. Un sixième échange d'otages et de prisonniers doit avoir lieu demain. Trois otages, dont l'un est détenu par le djihad islamique, doivent être libérés demain. Le CICR se dit très inquiet des conditions de vie des otages. Les dernières opérations de libération renforcent la nécessité urgente pour la Croix-Rouge d'avoir accès aux personnes retenues en otage. Fin de citation. Le cessez-le-feu, cette fois dans l'est de la République démocratique du Congo, doit être obligatoirement observé. Exhortation de l'Union africaine cet après-midi, car les informations qui parviennent de RDC démontrent le contraire. Le M23, allié à des troupes rwandaises, continue son avancée face à l'armée régulière. Après le Nord Kivu, voilà que la milice s'est emparée de l'aéroport de Bukavu, un lieu hautement stratégique. Sur place, Omar Waman.
Situé à 30 km à peine de Bukavu, l'aéroport de Kavumu est tombé sans résistance. Les soldats de l'armée congolaise qui y étaient positionnés ont évacué le site peu avant l'arrivée des rebelles et pris la direction de la capitale du Sud, plus que jamais sous la menace du M23 et des soldats rwandais qui combattent côte à côte. La chute de l'aéroport est un coup dur pour l'armée congolaise car c'était une base arrière stratégique qui servait à acheminer des renforts ainsi que du matériel militaire. C'était aussi le dernier verrou avant la ville de Bukavu, 1 million d'habitants où la panique s'est emparée de la population cet après-midi. Des sources sur place évoquent une ville morte, des habitants cloîtrés chez eux, des commerces fermés et des soldats congolais ainsi que des membres de l'administration locale et des autorités en train de prendre la fuite avec leur famille. Bukavu est sur le point de tomber. Sa prise permettrait aux rebelles de contrôler totalement l'immense lac Kivu qui borde la frontière rwandaise.
Omar Waman, l'envoyé spécial de France Culture en RDC. Une natalité en berne et un nombre de mariages qui diminue, ces deux données inquiètent le gouvernement coréen qui cherche à relancer la natalité, quels que soient les moyens. Pour la Saint-Valentin, par exemple, la mairie de Séoul a organisé elle-même un grand blind dating. 50 hommes et 50 femmes sélectionnés vont se rencontrer pour la première fois et tenter de se séduire. Objectif pour la mairie, former de nouveaux couples. Reportage à Séoul de Célio Fioretti.
Dîner, vin pétillant et œuvres d'art, la mairie de Séoul sort le grand jeu pour cette Saint-Valentin dans l'espoir de former de nouveaux couples et faire remonter les naissances. En 2024, le taux de natalité de la Corée du Sud s'élevait à 0,7 enfants par femme, le plus bas au monde, et le nombre de mariages diminue également. D'après un récent sondage, 40% des Sud-Coréens entre 20 et 50 ans ne souhaitent pas se marier. Pour ces deux participants venus aujourd'hui au blind dating, il s'agit avant tout de faire des rencontres.
Je pense qu'il est difficile de trouver l'amour de nos jours, parce qu'il y a peu de gens qui correspondent à mon style et aussi parce qu'il est difficile de tomber sur quelqu'un avec qui l'entente est réciproque.
Oui, ces jours-ci, les gens ne se rencontrent plus. Nous n'avons pas forcément le temps, l'occasion de faire des belles rencontres. Alors un événement comme celui-ci, c'est une bonne chose. Je ne sais pas si je trouverai l'amour, mais ça peut aider.
Mais une question se pose, est-ce bien efficace pour marier les Coréens ? Oui, répond Park Soo-ki, chargé de la lutte contre la dénatalité à la mairie de Séoul.
Nous avons eu de bons résultats les années précédentes avec 22 couples sur 100 participants. Bien sûr, la crise de dénatalité n'est pas seulement une affaire de rencontre, mais je pense que le blind dating peut être un point de départ.
Mais depuis quelques années, différentes villes du pays s'y sont essayées et beaucoup ont annulé leur programme de speed dating à cause de résultats trop faibles.
C'est Lio Fioretti à Séoul. En déplacement à Grenoble, deux jours après l'attaque à la grenade dans un bar d'un quartier populaire de la ville qui a fait 15 blessés, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a présenté sa nouvelle stratégie de lutte contre le narcotrafic et le crime organisé. Une stratégie, une doctrine, dit-il, détaillée dès hier dans une circulaire adressée au préfet. Il s'agit de mettre en place un dispositif ville de sécurité renforcée dans une vingtaine de villes en France où sera déployé un continuum de sécurité, je cite. Bonsoir Julie Paco.
Bonsoir Nicolas.
Pour le dire simplement, Bruno Retailleau s'inspire des opérations dites PlaceNet, lancées fin 2023 par son prédécesseur, Gérald Darmanin.
Oui, Bruno Retailleau veut approfondir et pérenniser ses opérations anti-drogue en déployant un dispositif intégral, dit-il, dispositif qui se décline en trois volets. Le premier est judiciaire pour identifier les cibles prioritaires avec un travail de renseignement en amont pour démanteler durablement les filières. Le second est sécuritaire pour reprendre le contrôle sur l'ensemble de l'espace public. Et le troisième est administratif, pour détruire l'écosystème économique du narcotrafic. Alors à chaque étape, le ministre veut mettre en place une coordination des services, entre ceux de police et de gendarmerie et du renseignement bien sûr, mais aussi les douanes et ceux des finances publiques par exemple. Une coordination accrue et décentralisée qui va dans le bon sens pour Jean-Christophe Couvi, mais le secrétaire national du syndicat policier Unité alerte.
Sauf qu'encore une fois, quand on veut combattre le narcotrafic, il faut des combattants. Et aujourd'hui, en fait, on a un souci, c'est les effectifs. C'est-à-dire que pour reprendre le terrain qui a été perdu, il faut le reprendre, mais il faut l'occuper après derrière de façon pérenne. Or, on est confronté vraiment à un réel, c'est que les effectifs, ils sont constants. Là, pour l'instant, on n'a pas des effectifs supplémentaires.
Des effectifs qui manquent sur le terrain comme dans les bureaux.
Aujourd'hui, on est très déficitaire en nombre d'officiers de police judiciaire. Il en manque 5000. Nos portefeuilles de procédures s'alourdissent. On a fait une moyenne. La moyenne française, c'est 180 dossiers par officier de police judiciaire. Ça fait que cette filière judiciaire, aujourd'hui, effectivement, nos collègues sont tous en burn-out, ils en ont marre.
Des officiers de police judiciaire qui devraient pourtant être davantage mis à contribution à Grenoble, Bordeaux, Nantes ou encore Dijon.
Merci Julie Paco. Le Premier ministre va rencontrer demain le porte-parole des victimes de Betaram. Le parquet de Pau mène l'enquête depuis un an sur plus d'une centaine de plaintes visant des violences physiques, agressions sexuelles et viols qui auraient été commis au collège-lycée catholique entre les années 1970 et 90. D'un point de vue politique, le chef du gouvernement est soupçonné d'avoir, par la gauche, d'avoir menti aux députés en affirmant qu'il n'avait jamais, à cette époque, été averti des faits qui ont donné lieu à des plaintes ou à des signalements. Autre interrogation, c'est cette fois l'attitude de l'Église. Agnès Desmazières est historienne. Selon cette spécialiste des violences sexuelles dans l'Église catholique, qui a eu accès à des archives inédites du Vatican, l'Église, malgré toutes les commissions et déclarations, n'a pas voulu ou su gérer la question des violences sexuelles depuis le début du XXe siècle à travers le monde.
On n'encourage pas forcément les victimes, à mon sens, suffisamment à aller aux autorités judiciaires. Parce qu'il y a un primat de la miséricorde sur la justice. La préoccupation première dans le droit de l'Église, c'est d'obtenir le pardon et la conversion du délinquant, plus que faire réparation pour les victimes et pour la société.
Et ça remet en cause toutes les commissions ?
Je dirais que les commissions sont toutes dans un lien de dépendance avec les institutions qui sont mises en cause, puisqu'elles sont nommées par ces institutions. Donc elles visent à la protection de ces institutions. Derrière tout ça, il me semble que la question, c'est pas seulement la responsabilité du fondateur, du responsable auteur de violences sexuelles, mais c'est aussi la question de son entourage, et qui était au courant et qui n'a pas dénoncé. Et on s'aperçoit que la sphère est assez large. C'est une sphère sociétale et la question d'une élite qui se protège mutuellement. C'est pour ça que pour moi, je plaide à l'heure actuelle pour un travail dans le cadre d'une commission parlementaire, comme ça a été récemment fait pour le cinéma, parce qu'on voit que c'est les mêmes dynamiques de silence, de secret. Mais je dirais que voilà, il faut aussi une volonté politique et il est important que les instances judiciaires s'en emparent. Voilà, on ne peut pas laisser tout à l'Église en disant elle va changer d'elle-même, quoi.
Agnès Desmazières, l'historienne, était avec Cécile de Kervas-Douy. Être Premier ministre n'empêche pas d'être élu local. François Bayrou l'a d'ailleurs déjà montré. L'on apprend aujourd'hui que les liaisons aériennes vont reprendre à partir de lundi entre Pau et Orly. Deux vols quotidiens entre le fief de François Bayrou et la capitale. Le dossier était cher au Premier ministre. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir Nicolas.
C'est le résultat d'un activisme effréné du Premier ministre qui se démenait depuis des mois pour faire aboutir ce dossier.
Ça fait même des années que François Bayrou a fait du maintien de la liaison Paris-Orly une affaire personnelle, alors que cette ligne est déficitaire. D'abord parce qu'il en a l'usage chaque semaine. Il vient à Paris le lundi et repart à Pau le jeudi ou le vendredi. Ensuite parce qu'il estime que les Béarnais y ont droit. C'est une question de désenclavement d'un territoire, affirme-t-il, qui se trouve à 700 km à vol d'oiseau de la capitale. Il pourrait se satisfaire de la liaison pour Roissy, fait valoir Air France, assurant que des vols restent et resteront affrétés quotidiennement. Mais rien n'y fait, le Béarnais veut atterrir à Orly. C'est plus pratique, plus proche de Paris et mieux desservi par les transports en commun. 30 minutes, montre en main avec la toute nouvelle ligne 14. François Bayrou s'est donc démené pour que rouvre cette liaison Pau-Orly fermée fin octobre, faisant un foin de tous les diables, raconte un élu local. Il se rend d'abord à Bercy, réclamant que l'agence des participations de l'État fasse pression sur Air France, raconte le journal Le Monde, sans succès. Puis il déboule dans le bureau du directeur de cabinet du Premier ministre de l'époque, Michel Barnier, mettant son soutien au gouvernement dans la balance, ça n'avait pas suffi. Une fois nommé Premier ministre, François Bayrou se saisit donc personnellement du dossier. « C'est normal, je suis un combattant et j'utilise ce que j'ai comme influence », avoue-t-il au journal Le Monde. Comment s'y est-il pris? On ne sait pas vraiment, il ne le dit pas. Ce qu'on sait, c'est que la hausse de la taxe sur les billets d'avion dont ne voulait pas Air France dans le budget 2025 a finalement été réduite de 200 millions d'euros. Et puis qu'à partir de lundi, la liaison Pau-Orly sera rétablie, assurée par une petite compagnie, Amelia, qui a le soutien commercial de la compagnie Air France.
Merci Stéphane Robert. Je vous propose ce soir de nous arrêter sur un MeToo chez Air France. Justement, des femmes salariées de la compagnie, hôtesses de l'air et pilotes, dénoncent la banalisation des violences sexistes et sexuelles chez Air France. Marie Dupin, vous êtes journaliste à la cellule Investigation. Vous avez recueilli la parole de nombreuses femmes qui se disent victimes de harcèlement ou d'agression sexuelle. Elles dénoncent un climat d'omerta au sein de la compagnie et leurs témoignages sont salés.
Et parmi ces femmes qui prennent la parole, Dominique, hôtesse de l'air chez Air France, en 2021, elle raconte avoir été harcelée par deux pilotes pendant une soirée au restaurant en escale.
On arrive au restaurant et là c'est affreux. J'écoute les pilotes qui me décrivent dans des situations extrêmement sales. Ils disent « Dominique, je mets ma tête entre tes cuisses, je te lèche, ma carte bancaire tombe au pied du pilote qui est assis en face de moi. Il écarte les jambes, il la ramasse et il se branle. Il le montre de façon extrêmement claire. Il la met dans sa bouche et là, il passe au-dessus de la table et il se colle à mon visage. »
Et le lendemain, Dominique repart en vol.
Les passagers nous font part d'une odeur de brûlé dans l'avion. J'aurais dû prendre l'interphone et appeler le cockpit pour leur faire part de cette question de sécurité. Je n'ai pas pu le faire. Je n'ai pas pu appliquer la procédure étant donné ce que j'avais subi de la part des deux pilotes.
À son retour, Dominique signale les faits à la direction, mais elle n'aura jamais de retour d'Air France sur d'éventuelles sanctions. Une autre salariée, une pilote, nous a pourtant raconté avoir elle aussi signalé des faits de harcèlement sexuel de la part d'un de ces deux pilotes.
Et ce cas est loin d'être isolé, Marie.
Oui, on a en effet recueilli de très nombreux témoignages de femmes salariées d'Air France, des hôtesses de l'air, des commandants de bord. Toutes disent avoir signalé des agissements sexistes ou sexuels à la direction. Mais rien, pas de sanctions, parfois même pas d'enquête. Certaines ont été dissuadées de porter plainte par la compagnie, ce qui est illégal selon le code pénal.
Alors Marie, que répond la direction ?
Eh bien, Air France assure qu'elle met tout en œuvre pour libérer la parole et affirme mener une politique de tolérance zéro. Mais nous dévoilons aujourd'hui plusieurs documents, notamment des courriers à la direction d'un syndicat de pilotes minoritaires qui évoque la banalisation des violences sexistes et sexuelles pouvant affecter la sécurité des vols, mais aussi un rapport d'audit très récent commandé par le comité social et économique d'Air France. Ce document de septembre dernier évoque un contexte de permissivité vis-à-vis d'actions graves et condamnables. Selon ce rapport, les faits de harcèlement sont sous-signalés car les victimes ont peur que leur témoignage ne soit pas pris au sérieux. Écoutez ce que dit à ce sujet Caroline, hôtesse de l'air, elle aussi.
C'est vraiment le sentiment que de toute façon, si tu parles, tout le monde s'en fout, quoi. Non seulement tout le monde s'en fout, mais que tu vas te mettre en danger parce qu'on va te le reprocher, parce qu'en plus, si tu mets en cause ton supérieur, et pire, si tu mets en cause le commandant de bord, tu sais qu'on va te pourrir la vie.
Et le rapport d'audit évoque aussi un manque d'indépendance de la cellule anti-harcèlement d'Air France, ce que confirme Bruno Merabstein, qui représente les hôtesses et les stewards au sein du syndicat SNPNC.
On s'est rendu compte qu'il y a des lacunes dans les enquêtes. Soit il n'y a pas de sanction, soit il y a une sanction, mais on ne connaît pas du tout la teneur, le niveau de sanction. Une victime, comment elle peut se réparer? Comment elle peut s'estimer entendue si les conclusions d'une enquête ne sont pas claires? Et ça, c'est très difficile pour la personne qui a eu le courage d'aller faire le signalement.
Et depuis des années, le syndicat demande également de la formation pour tous les personnels et des campagnes d'affichage.
Quand on a demandé pourquoi il n'y avait pas d'affiche, c'était pas quand même sorcier pour Air France de faire une campagne d'affichage. Une personne de la direction nous a indiqué qu'une campagne d'affichage n'était pas envisagée par souci écologique.
Et le SNPNC a même créé une adresse mail MeToo Air France pour recueillir des témoignages. J'ajoute que d'après nos informations, une enquête est ouverte par l'inspection du travail. Le ministre des Transports annonce aujourd'hui prendre très au sérieux notre enquête et convoquer les dirigeants d'Air France la semaine prochaine pour avoir des éléments sur ces accusations qui ne peuvent rester sans réponse si elles se confirment.
Merci Marie Dupin. Votre enquête est à retrouver sur radiofrance.fr. Un mot du temps demain. Un temps qui sera calme, un ciel plutôt voilé, mais avec de belles éclaircies présentes sur l'Est. Les températures maximales ne dépassent pas 3 à 8 degrés sur la moitié nord et le centre-est. On attend 12 à 16 degrés dans le sud, jusqu'à 21 degrés sur le sud de l'Aquitaine. Ce journal est désormais terminé.